Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Bertrand Duzéhu. Bonjour Bertrand.
Bonjour Monsieur
Chambon.
Pour
la parution de son nouvel ouvrage, Le manager de proximité, au cœur de la performance de l'entreprise, qui est paru chez Gerezo Éditions, un ouvrage de 158 pages pour 20 euros. Alors, Monsieur Duzéhu, vous êtes consultant, psychologue social en formation et vous avez été vous-même manager pendant de très nombreuses années. Donc vous faites aussi part de votre expérience de ce métier de manager qui est souvent placé devant de grandes difficultés. Alors vous êtes consultant spécialisé dans l'accompagnement et la formation des managers et vous dirigez votre propre cabinet de conseil et de formation en ressources humaines.
Tout à fait.
Alors pour introduire cette interview, je dirais que les drames humains qui se sont succédés au cours de ces dernières années, suicides, pathologies comportementales, perte de sens, dans de nombreuses grandes entreprises, tant dans le secteur public, EDF, SNCF, que de cultures monopolistiques ou quasi-monopolistiques, France Télécom, ont porté témoignage de tensions sociales nouvelles dans le travail. Nombre d'entre elles prennent leur source dans le sentiment d'éloignement du corps social avec le top management et une forme de dégradation de la valeur travail. Perdre sa vie à la gagner ne fait plus recette, selon l'expression du sociologue Philippe Diribarne. Dans ce contexte, le management de proximité a subi une forme de double peine. Ces petits chefs portent à la fois le poids du mépris de leurs collaborateurs, c'est aussi la logique de l'honneur de Philippe Diribarne, car ils apparaissent comme ceux qui font suer le burnous, en quelque sorte, pour le compte des grands chefs, tandis qu'ils sont harcelés par la direction en tant que maillon central de la performance de l'entreprise. Alors, comment expliquez-vous que cette logique de bon sens, qui serait de reconnaître aux managers de proximité tout leur intérêt et l'importance qu'ils ont dans le fonctionnement de l'entreprise, ait pu à un moment donné être oubliée au point de créer des blocages dans l'entreprise? Comment voyez-vous ce processus de dégradation en quelque sorte?
Alors, processus de dégradation, pour moi, je pense que c'est un fait culturel français aussi. Le manager de proximité, c'était vraiment le chef haillon, celui à qui on donnait des directives. Et il faut pas se leurrer, en France, le poids managérial est très fort comparé, par exemple, aux entreprises anglo-saxonnes où on laisse beaucoup plus d'autonomie aux personnes. Donc ce sont des personnes qui souvent sont des très bons techniciens et qu'on a mis à des places.
De management,
sans se rendre compte qu'ils avaient pas l'étoffe et qu'on leur donnait pas non plus tous les moyens pour pouvoir être réellement des managers. Alors ça change petit à petit, les mentalités évoluent. Mais il y a, je pense qu'en France, on a un grand pas à faire pour pouvoir reconnaître ces personnes-là à leur juste valeur.
Oui, donc en fait, on n'a pas mis en place dans ce management intermédiaire, dit de proximité, dans ces relais que doivent représenter ces petits chefs, entre guillemets, des gens qui étaient formés aux aspects psychologiques du management, aux aspects de courroie de transmission et d'huile dans les rouages, mais plutôt des gens qui avaient par ailleurs leur mérite dans le domaine technique et qui étaient brusquement placés en fait dans un autre métier que celui pour lequel ils avaient à un moment donné été reconnus et avaient eu de nombreux mérites. Et c'est un peu ça la dérive.
On les fait en fait accéder à un autre monde, qui est le monde en fait de la maîtrise, alors que ce sont des techniciens. Alors il y a des personnes qui sont tout à fait capables de s'adapter, de trouver les moyens parce qu'ils ont une personnalité qui leur permet de trouver des moyens pour s'adapter à ce nouveau monde. Mais dans la majorité des cas, on les propulse en tant que manager sans réellement les avoir mis en condition pour qu'ils soient managers ou sans avoir fait attention à quel type de personnalité on allait avoir.
Et alors, est-ce que vous pensez que justement les drames qu'on a connus récemment dans l'actualité, notamment chez France Télécom et dans bien d'autres entreprises, des suicides ou des altérations très fortes du personnel, est en lien avec cette situation en amont de l'organisation de l'entreprise.
Alors, je pense qu'il y a une dégradation très forte, en fait, de la relation humaine dans l'entreprise.
D'une façon générale.
Et d'une façon générale. Et qui est liée au fait que, mondialisation, performance, tous ces mots qui sont mis en avant, fait qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel dans une entreprise, c'est l'être humain. Qu'est-ce qui fait fonctionner une entreprise? C'est pas les machines les plus merveilleuses possibles, c'est l'être humain qui est derrière les machines. Et cette notion de bon sens, on la perd de vue, malheureusement. Quand on prend les gens pour des pions, quand on les surcharge de travail ou que les personnes se surchargent elles-mêmes de travail parce qu'elles croient qu'il faut faire pour être acceptées ou autre chose, à un certain moment, ça devient dramatique et on a à un certain moment des comportements extrêmes comme on les a vus.
Là, on est dans le constat. Maintenant, si on en vient aux préconisations que vous avez pu faire, comment retrouver le bon sens en quelque sorte et redonner à ce management intermédiaire toute sa valeur à travers la formation, j'imagine, des parcours, ou peut-être tout simplement la reconnaissance de leur situation.
La reconnaissance est importante, mais c'est vrai que toute la formation est aussi importante. Il y a quelque chose qui est pour moi primordial, c'est que toutes les couches managériales et même les dirigeants prennent conscience que ce noyau, ces managers de proximité, ils sont une partie vitale pour l'entreprise. Alors que quand vous demandez à un responsable d'une grande reprise, il délègue en disant les managers qui sont sous mes ordres font du bon recrutement, quoi. Mais est-ce qu'on leur donne les moyens? Est-ce qu'on leur a donné certaines préconisations pour bien recruter? Pas toujours. Et on se rend compte, il y a des aberrations extraordinaires et il y a toujours en filigrane cette notion qui est tout à fait française de se dire c'est un bon expert, ce sera un bon manager. Et aujourd'hui encore, on l'a.
On a encore cette...
Au 21e siècle.
Alors, comment trouver le manager idéal? C'est votre avant-conclusion. On fait comment pour le trouver, ce manager idéal?
Alors, le manager idéal, il y a des façons...
D'abord, est-ce qu'il existe?
Non, parce que manager idéal, c'est quelqu'un qui serait capable de s'adapter à toutes les situations. À certains moments, on a des blocages où on a des limitations et tout le monde a des limitations. Le bon manager, c'est celui qui, avec ses limitations, arrive à faire. Donc, arrive à déléguer à certains moments. Alors, il y a certaines typologies qui sont plus enclines à devenir des bons managers. Mais ce qui est important, je pense, c'est dans les entreprises de faire attention à comment le bon technicien s'en sort, par exemple, par rapport à des problématiques. Quand il est face à un problème, comment il s'en sort? C'est se poser des questions qui sont toutes simples. Comment fait-il quand il est face à un problème? Est-ce qu'il va demander de l'aide? Est-ce qu'il se débrouille tout seul? Est-ce qu'il est capable de trouver des nouvelles manières de faire? Donc, voir comment la personne, elle agit.
Réagit par rapport à un contexte donné.
Voilà. Et après, essayer de transposer, sans être sûr que ça va être du 100%, bien sûr, parce qu'à certains moments, on peut se retrouver face à des gens qui sont très bons techniciens, qui résolvent très bien des problèmes. Et quand on les change de monde, qui deviennent dans ce monde de la maîtrise, ils perdent pied.
Je vous cite, on va voir que votre prose est assez allégée et claire. Continuer à nier les conséquences parfois négatives qu'un management de proximité non maîtrisé peut engendrer s'apparente à laisser un militaire lambda commander un groupe d'hommes allant au combat. Les chances de réussite de mener à bien leur mission sont maigres et c'est irresponsable de promouvoir cette personne à ce poste sans qu'il ait été formé et sans se préoccuper de ses capacités à prendre cette responsabilité. Donc c'est en quelque sorte votre message central.
Tout à fait.
C'est de dire, attention, le management de proximité est à ce point important qu'il ne peut plus être traité de façon légère comme ça a été dans le...
On peut plus se permettre ça.
Dans le passé. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises qui ont été le plus confrontées à ce choc, en quelque sorte, de l'insuffisance de compétences et de reconnaissance de leur management intermédiaire ont commencé à prendre des mesures que vous saluerez volontiers?
Alors, il y a certaines entreprises, oui, qui font des efforts, mais je pense que la tâche, elle est immense. Et on a un très gros handicap, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est culturel, par rapport aux pays anglo-saxons, simplement parce que la notion de chef, la notion de pouvoir est très importante à tous les niveaux managériaux. Et il faut que les managers, à tous les niveaux, apprennent à plus déléguer. Et ça, c'est un gros problème encore. Mais pour moi, ça s'améliore. D'année en année, je pense quand même que les responsables prennent conscience.
Et alors, quels sont les types d'entreprises qui aujourd'hui font appel à vous? Est-ce que ce sont celles qui ont déjà subi des sinistres forts dans leur organisation et au niveau humain? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui anticipent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils apparaissent en situation confortable et qui néanmoins se préoccupent de ce sujet? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'il commence à y avoir une prise de conscience au-delà de simplement du traitement des sinistres.
Alors, depuis quelques années, c'est vrai que j'ai des clients qui se portent très bien et qui, comme vous dites, qui ont anticipé. Mais c'est vrai aussi qu'on se retrouve avec des entreprises, par exemple, j'en cite une dans mon livre en exemple, une entreprise qui était très laxiste, où on a laissé tout le monde faire n'importe quoi, et qui prend aujourd'hui conscience, en ayant changé de responsable, que ben il faut reprendre les rênes, quoi, et que les managers de proximité, ils doivent être légitimés pour que l'entreprise, elle fasse un travail qui soit un travail cohérent et un travail qui va porter ses fruits, quoi.
Alors aujourd'hui, vous avez surtout des entreprises, des organisations qui sont, on va dire, parisiennes, ou est-ce que aujourd'hui le niveau régional et aussi la taille des entreprises de vos demandeurs évolue? Est-ce qu'il y a uniquement des grandes organisations ou est-ce que des plus petites organisations se préoccupent de ce sujet?
Je travaille beaucoup pour des grosses sociétés. Alors je travaille de manière un peu particulière. Je travaille avec, par exemple, très souvent avec le même cabinet qui met en place dans les entreprises industrielles ce qu'on appelle la performance industrielle. Donc des outils lean et choses comme ça. Et moi je travaille sur les comportements. Donc je travaille assez rarement pour des petites entreprises et je travaille pour des entreprises sur toute la France.
D'accord. Donc il n'y a pas que Paris là.
Ah non, pas du tout. Je travaille sur toutes les régions où je trouve du travail, j'y vais. Donc ça, il y a pas de souci.
Il y a pas de souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la demande elle-même est sensibilisée partout dans le territoire.
Tout
il n'y a pas que le phénomène, on va dire, pour simplifier, France Télécom qui a déclenché sa périphérie des réflexions sur le sujet.
Ça a amené, je pense, les entreprises françaises dans leur ensemble à se poser des questions. Et bon, même si encore certaines entreprises ont des RH qui ont des comportements un peu bizarres, c'est vrai que les RH ont réfléchi à qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que des gens en arrivent à un acte ultime. Et c'est pas anodin.
Sur un autre plan, et on conclura là-dessus, quel regard vous portez aujourd'hui, vous parliez des DRH, à l'instant, sur les relations sociales, c'était le paritarisme notamment, qui met deux blocs en face à face, qui généralement ont d'autres objectifs que simplement de s'occuper de l'humain, mais de leurs intérêts réciproques. Est-ce que le paritarisme est pour vous quelque chose qui favorise ces prises de conscience du rôle de proximité, du management médian, ou est-ce que vous sentez plutôt que les formes d'approche des employeurs d'un côté et des représentants syndicaux de l'autre, qui parlent des salariés au sens général du terme, n'ont pas un peu tendance à exclure, à oublier, d'une part, les dirigeants salariés du côté des employeurs, qui sont leurs mandataires et leurs alliés, et par ailleurs, le management intermédiaire, qui est, on va dire, le petit chef dont tout le monde a horreur, notamment du côté des syndicats.
Ouais, tout à fait. Donc, il y a quelque chose qui est, je pense aussi, très culturel dans notre pays. La force des syndicats, elle est très forte et elle a une certaine constante pour certains. C'est de rester dans des manières de faire qui sont devenues archaïques. Alors que pour certains autres syndicats, il y a une tendance à avancer. Et ce qu'il faut, je pense, de plus en plus qu'on apprenne en France, c'est à négocier. On est sur des négociations du gagnant-perdant. Bon, ça fait ses preuves peut-être à un certain moment, plus dans le contexte aujourd'hui. Et on se retrouve donc dans les entreprises, moi, où je travaille, je peux me retrouver confronté avec certains syndicalistes qui sont très en avance et qui ont envie réellement de faire quelque chose. Et puis d'autres où c'est encore germinal, quoi. C'est assez paradoxal, et dans mon livre, j'en parle à un certain moment, mais c'est assez paradoxal de se retrouver avec des gens qui ont une autre approche, une approche archaïque.
D'accord. Donc on va terminer sur ce dernier point, peut-être en ouvrant une fenêtre qui dépasse les personnes. On a beaucoup parlé des personnes à titre individuel, là, les dirigeants salariés, les employeurs, les managers de proximité. Vous développez un autre point qui me paraît très important dans ce contexte-là, c'est l'équipe. Alors, quelle est l'interaction manager-équipe qui tire l'autre, qui est gagnant-gagnant, etc.
La notion d'équipe est importante, bien sûr, pour faire avancer les choses. Et la problématique du manager de proximité, c'est que il est entre deux mondes. Donc, il est immergé dans son équipe, donc il est dans ce monde du travail, et il doit être tout à fait cohérent aussi avec le monde de la maîtrise et ne pas se séparer d'une manière ou d'une autre de ce monde-là. Et il doit faire partie des deux mondes. Et la difficulté aujourd'hui, c'est ça. Et cette notion d'équipe, ben, ça doit être le manager qui doit non pas tirer l'équipe, mais qui doit profiter, je dirais, de la synergie, de toutes les capacités de l'équipe pour avancer. Souvent, le manager de proximité, c'est pas un leader. Il peut devenir leader, mais c'est relativement rare. Mais il faut qu'il apprenne à pouvoir utiliser au mieux les capacités et les potentialités de chacun.
D'accord, d'accord.
Et c'est ça une notion d'équipe.
Très bien. Eh bien écoutez, c'était les convictions de Bertrand Duzéhu qui vient de faire paraître chez Gerezo le manager de proximité au cœur de la performance de l'entreprise avec le message suivant et ses explications pour voir comment les directions doivent porter une attention nouvelle sur cette courroie de transmission indispensable pour accompagner les managers de proximité en leur permettant de révéler et d'exercer leur leadership tout en gagnant en autonomie et en responsabilité. Bertrand Duzéhu, merci encore pour cet entretien.
Merci à vous, Monsieur Chambon.